Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h04, encore une heure à passer ensemble dans les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, Fred Veil, Jérôme Pillon vous accompagne peut-être sur la route des vacances. Bonnes vacances si vous en avez, bon courage si vous travaillez, si vous vous réveillez seulement ce dimanche matin. Déjà, vous avez de la chance et vous pouvez retrouver le podcast du début de l'émission. Dès maintenant, on a parlé des lofts dans le foot, du business, dans le vélo, enfin bref, il y en a eu pour tout le monde depuis 9h. Dans 30 minutes, Michael Jérémiaz, ancien porte-drapeau, Jeux paralympiques, ancien multimédaillé aussi paralympique, chef de mission sur ces Jeux de Paris, sera en direct avec nous à 11h45. Vous le savez, les GG contre-attaque, votre rendez-vous. Vous allez voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Je fais un point sur vos votes pour l'instant. Et on est sur un très bon Pascal Duprat sur sa lancée d'hier qui pour l'instant mène la danse.
Le doublé.
50% veulent entendre Pascal parler de ce débat sur la Ligue 2. Attention à ne pas faire fuir notamment Beansport, sur revenir sur les incidents de la Ligue 2 d'hier. 30% pour ton débat Fred Veil sur Yabusele de retour en NBA. Et Jérôme Pinault un petit peu à la traîne. Hein, il est dans le.
Comme d'habitude.
Il est à l'arrière du peloton, là, Jérôme. Il est bientôt lâché, là, 20%. Jérôme, faut se reprendre.
Oui, mais ça correspond aux gens qui sur regardent la Vuelta, c'est-à-dire voilà. Personne.
Moi, je regarde, c'est magnifique. Je regarde, c'est beau.
Moi aussi, je regarde. Visiblement, mais... ça prend pas pour l'instant, mais il y a encore du temps.
Mais le débat de Pascal est très intéressant,
Jérôme. Oui, mais attends. Oui,
merci, les gars. Merci.
Il a pas besoin de ça pour gagner. Allez, votez.
Allez-y, votez, les gars, votez.
Allez, pour la rentrée, vous le savez, sur RMC, nous avons décidé aussi de vous couvrir de cadeaux toute cette semaine. Vous allez pouvoir ouvrir le coffre RMC pour repartir avec la totale MacBook Air, iPhone 15, Apple Watch, PlayStation 5, rien que ça. Dès que vous entendez ceci. Ah oui, c'est la cloche de la rentrée. Envoyez coffre au 732-16. Coffre au 732-16. Vous restez à l'écoute, bien sûr, des grandes gueules du sport. Ça peut tomber à tout moment. Il y en a un certain Kylian M qui nous écoute peut-être à Madrid. Lui aussi, il a le droit de jouer pour gagner tout ça. Je sais qu'il est un peu dans le dur en ce moment.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
On le sait, Kylian, votre parole, elle pèse énormément. Est-ce que vous considérez que vous avez du pouvoir aujourd'hui ?
J'ai des droits. J'ai des droits que je veux faire valoir.
C'est toujours mieux quand c'est votre argent qui travaille plutôt que vous.
Parce que certains peuvent penser que vous en faites trop aussi.
Je suis comme ça, j'ai toujours envie de gagner.
Permettez que je m'étonne de vous voir si jeune manier tant d'argent.
Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Moi, tu me parles pas d'âge.
C'est-à-dire que l'argent qui vous intéresse.
On va pas se créer des problèmes pour rien. On a un pays à faire gagner.
Ah, Kylian Mbappé, évidemment, qui est à la une donc de cette semaine avec ce feuilleton qui n'en finit pas de son départ du PSG. Mbappé d'ailleurs qui va jouer son premier match à Santiago Bernabéu avec la tunique blanche du Real Madrid. On sera dans un instant avec Edgar Grolot en direct de Madrid pour parler du terrain, le sportif. Mais d'abord, on s'intéresse à ce que l'attaquant français réclame au PSG. 55 millions d'euros, de l'argent qui correspond notamment à plusieurs mois de salaire. On verra précisément avec Arthur Perrault dans un instant à quoi ça correspond. Mais d'abord, cette question, les grandes gueules du sport. Mbappé qui réclame tout cet argent au PSG, est-ce que c'est choquant ou non selon vous? Oui ou non? Pascal Duprat.
Non.
Fred Weiss.
Pas choquant, mais pas très élégant.
Pas élégant. On va garder ça. Jérôme Pinon.
Non, pas du tout.
Bah, c'est oui ou non, alors, Fred.
C'est non, pas élégant. Il a dit oui, élégant. Pas élégant.
Non, mais Fred Weiss va nous faire dans la dentelle. C'est pas très élégant. 55 patates, le mec, il est limoges. On connaît les limoges,
Jérôme.
On va dire que non.
On va accueillir Arthur Perrault qui est là. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Voilà l'élégance d'RMC, Arthur voilà. Perrault,
merci,
il est magnifique.
François, merci beaucoup.
À quoi correspondent ces 55 millions d'euros réclamés par le clan Mbappé au PSG?
Alors, tu as commencé à en parler. Cela correspond à des salaires d'avril, mai et juin dernier, plus des primes impayées. Kylian Mbappé, eh bien, ce paiement, il le demande en application de son contrat de travail, tout simplement, pour récupérer ce joli chèque. L'attaquant a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel, l'UEFA, par l'intermédiaire de la Fédération française de football. Une lettre de mise en demeure a été envoyée dans un premier temps au club parisien. Les négociations entre les deux parties n'ont pas évolué. Le PSG estimait qu'un accord à l'amiable avait été acté. Souvenez-vous, c'était au moment du placement de Kylian Mbappé dans le loft avant la reprise du championnat. Et donc, un accord verbal, on va dire, existait selon les dirigeants parisiens avec le joueur. Aujourd'hui, le club souhaite ne faire aucun commentaire sur les discussions en cours, qui selon lui se déroulent de manière constructive depuis de nombreux mois. Si aucune solution n'est trouvée, eh bien Kylian Mbappé se réserve réserve lui le droit de porter l'affaire devant les prud'hommes.
Merci Arthur, tu restes là hein, parce que tu vas pouvoir arbitrer ce débat qui promet entre notamment Jérôme Pinault, Pascal Duprat et Fred Weiss, donc qui n'est pas totalement d'accord avec vous. Avant de te donner la parole Fred, pourquoi Jérôme, toi tu dis que c'est pas choquant du tout?
Bah parce que c'est dans le contrat et c'est un contrat est signé avec des montants. Quand on signe des contrats, on est deux parties, l'employeur et l'employé. Je crois qu'on est tous à peu près d'accord une fois qu'on impose une signature. Ça dure assez longtemps, avec 150 avocats et 35 conseillers autour. Et quand on a signé ça, eh ben on doit respecter. Comme Kylian Mbappé a respecté son contrat, le club doit respecter le contrat de Kylian Mbappé. On est dans le Mbappé bashing en ce moment. Ça y est, il est parti au Real, on veut plus en entendre parler. Il devrait faire des cadeaux au PSG. Mais à quel titre ce garçon ne devrait pas être
au titre d'un accord oral dont tu as parlé Arthur Perrault.
Accord oral dans le business, dans le monde entier. Non mais ça existe. Ouais, voilà, ça n'existe pas, c'est un accord oral.
Ah bon.
D'où écoute, non, elle laisse tomber.
Il y a des pays, Jérôme, où ça a valeur de contrat. Hein. Juste pour information, tu dis que ça n'existe
accord
pas.
Accord oral,
c'est dépassé aujourd'hui.
Dans quel pays? Dans quel pays tu vas en vacances, toi?
Il y a plusieurs pays, alors que je ne citerai pas là parce que je ne l'ai pas sous les yeux.
Voilà. Tu nous dis, il y a des pays où, mais tu ne sais pas lesquels. C'est différent, quand même. Alors, le Tadjikistan,
certainement.
C'est là où il a caché son argent.
C'est le pays des bisounours. C'est le pays des bisounours.
C'est le pays que tu as choisi, alors.
C'est le pays que tu
as choisi.
C'est le pays que tu as choisi.
Tous les jours, il
traite de bisounours. Le pays des bisounours, il n'y a pas de loft, où il y a des accords roses, etc.
C'est la compagnie de voyage de Fred Weiss préférée, Gulli. Le monde où tout est rose. Alors, tu me dis, tu ne me payeras pas, je ne vais pas te payer.
Si
d'accord,
un bisounours veut bien venir au 32-16 pour régler la question. Fred, tu n'es pas un bisounours quand même, Fred?
Non, mais honnêtement.
C'est un élégant.
Je suis très choqué parce que d'un côté, c'est deux personnes que j'ai en face de moi, qui sont merveilleuses hein, d'habitude, mais qui là sont en train de me dire le loft c'est pas bien, les gars il faut respecter les gens, etc. Donc la parole donnée n'a plus de valeur pour eux. Je pense que on est un club qui décide les choses par rapport à ce qui se passe. Tu as l'accord verbal en face de toi de Kylian Mbappé qui semble être un mec hyper honnête, hyper carré et hyper droit. Il te dit, je ferai tout pour aider le PSG, même si je pars, je partirai pas à zéro. Mais si je partais à zéro, je ne partirai pas à zéro quand même. Voilà exactement ses déclarations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement qu'il est prêt à abandonner une partie de ses primes négociées avec le PSG pour ça. Il l'a dit dans les journaux. Ça, Jérôme, je sais, je l'ai lu.
Toi, tu l'as interprété comme ça.
Je sais que tu ne lis pas beaucoup. Mais tu pourras lire là, tu verras que tu apprendras les choses. Et donc, à partir de là, le mec, je ne suis pas en train de dire qu'il peut pas réclamer. Effectivement, il y a un contrat qui est écrit, qui a valeur, et tu peux réclamer l'argent. Mais je trouve ça un petit peu inélégant quand tu dis que tu vas protéger ton ancien club qui t'a donné beaucoup de choses, et qu'au final, tu ne fais pas, c'est tout. Encore une fois, si on parle seulement de contrat,
mais il a fait quoi
mes
de
deux
mal
acolytes
il a fait
auraient
quoi
raison parce qu'ils sont très terre à terre et que eux ne pensent que
qu'est-ce qu'on lui reproche d'avoir fait
régularité.
Arthur, voilà. Arthur ouais. Perrault,
juste pour rebondir, alors Fred, tu as très bien rappelé ces dernières déclarations où il expliquait que il partirait en faisant en sorte que personne ne soit lésé, c'était vraiment ses mots. Deux choses pour revenir sur cet épisode, le fait qu'il avait été placé dans le loft par la direction parisienne, il y avait eu une discussion avec le président Nasser Al-Khelaifi au campus à Poissy, et au lendemain de cette discussion, souvenez-vous, suite à justement au fait que Kylian Mbappé avait accepté de ne pas toucher ces primes-là, il avait été replacé dans le groupe professionnel. Donc là, il y avait quand même eu une décision de prise par la direction parisienne. Et dernière chose, Pascal,
tu nous as parlé, Arthur le Magnifique, de 3 mois de salaire.
Aussi, on est d'accord. Et dernière chose, pour avoir tout le contexte, Kylian Mbappé est représenté par une avocate qui est très connue dans le monde du sport qui s'appelle Delphine Vereden, qui a aussi été très impliquée dans certains préjudices avec l'équipe de France. Je vous rappelle l'épisode des droits à l'image.
Ouais.
Voilà, je dis pas que c'est quelqu'un qui aime les procédures à outrance, Kylian Mbappé.
Il est un peu précurseur
dans tout ce type de choses. Voilà, Pascal, t'as pas encore.
Je pense que l'avocate, moi aussi, je veux bien être l'avocate de l'avocat d'Mbappé, hein, parce que sur les 55 plaques, elle va prendre un peu de la monnaie.
tu restes à RMC.
Je crois pas.
Je crois pas. Moi, je vais simplement dire une chose.
Tu manques un peu d'élégance, Pascal. Je trouve que.
Oui, je sais, Fred.
Dans son pays à lui.
Fred,
l'avocat.
Fred qui m'a rejoint chez les Bisounours.
Je sais pas s'il y a des avocats chez les Bisounours. Ça, c'est avec.
Je sais pas.
On n'a pas besoin de faire des conflits.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de conflits.
Donc, cela dit, quand vous rappelez l'épisode du Loft, donc qu'est-ce qui empêchait Nasser et Mbappé de ratifier ce nouvel élément?
À l'écrit, rien.
Voilà,
rien.
Ils ne pouvaient pas l'écrire, donc ils ne l'ont pas écrit.
Erreur, on est d'accord. C'est une erreur de la direction.
Non, mais ça fait double erreur, c'est-à-dire que tu signes un contrat, ensuite tu le contestes, Mbappé a peut-être donné sa parole qu'il allait re-signer, il dément sa parole, parle, j'en veux... Enfin, c'est un imbroglio incroyable.
Et on n'oublie pas, Pascal, sur la fin,
oui.
que la décision... et tout Nasser qu'il est, il était aussi certainement derrière tout ça, que Mbappé, sur la fin du championnat, les trois mois là où il n'était plus payé, on l'a quand même bien mis en carafe pour jouer quelques matchs de la Champions League.
De temps en temps sur le banc, voilà.
Ouais.
De temps en temps sur le banc.
Tout ça,
ça m'appelle à la réflexion.
Tu peux pas.
Je voudrais élever un peu le débat. Pardon, bisous. Vas-y.
Excusez-moi, monsieur le bisounours, mais on peut pas avoir les déclarations qu'a Mbappé en disant je ne partirai pas en laissant le club comme ça. C'est pas possible, en fait. En termes d'image, c'est pas possible. Encore une fois, je vous rejoins. Légalement, il a tout à fait le droit de réclamer des salaires. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pour ça que je parle d'inélégance plus que de choc, parce que c'est pas choquant qu'il réclame des dus. Sauf que tu es Kylian Mbappé, tu vas au Real Madrid, tu signes là-bas, tu es un joueur star, tu parles du PSG pour zéro. Tu promets dans la presse, avec des déclarations claires, que tu ne les laisseras pas comme ça, et tu le fais. Ben, je trouve que c'est un petit peu...
Il a pris, pour préciser, une prime à la signature quand il est arrivé à Madrid.
Oui, bien sûr.
Bah oui, comme il y avait aussi du principe de partir libre, ça lui a permis aussi de toucher un petit peu d'argent.
Exactement.
Un petit peu beaucoup d'argent.
Considérons tous, ça vous paraît certainement incongru ce que je vais dire, considérez tous que Mbappé, les 55 millions d'euros, c'est peanuts, il s'en fout, mais il va les prendre, sinon fait une histoire de principe. Il n'a pas besoin d'argent, Mbappé, pas de problème pour lui. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais élever le débat et qu'on revienne sur la saison dernière. Vous vous rendez compte comme ça avait dû être dur toute cette saison, comme les blessures devaient être, très ouvertes entre les Qatariens et Mbappé. Vous rendez compte comme ça a dû être difficile, parce que là, le problème, il date vraiment du Loft. Il date vraiment du fait que Mbappé a pas voulu re-signer. Donc ça a dû être en interne pour le Paris Saint-Germain. Ça a dû être très difficile et très compliqué. Et je comprends mieux pourquoi en Champions League ils ont pas existé l'année dernière le Paris Saint-Germain. Ça devait être très lourd à supporter. Cette histoire-là.
D'où certaines réactions.
Ce qu'il y a du contrat, encore une fois, moi je dis la chose suivante, le contrat a été signé, il est fait pour être respecté. Voilà, Mbappé, il les réclame. Fred, bisounours, pas bisounours, pas élégant, il a rempli le stade au Real Madrid quand il a été présenté. Il n'y a personne qui s'en est offusqué, qu'il a réclamé 55 briques au Paris Saint-Germain. Et toi-même, Fred, tu de haut, tu ne vas pas
aller
le voir en lui disant, t'es un goujat, tu vas aller le voir, toi, Mbappé.
On nous demande un ressenti par rapport à ce qu'a fait Mbappé. Mon ressenti, il est celui-là.
Mais ça choque peut-être
bien sûr que dans deux semaines, je m'en rappellerai plus. Bien sûr que je m'en fous complètement sur
le principe. Alors, il y a deux, je me dis qu'un personnage choqué, public, Fred,
comme Mbappé, je trouve ça un petit peu. Encore une fois, je ne suis pas choqué.
Je crains
une erreur de com. On va dire.
Moi, je crains que les gens qui sont choqués, en tout cas pour la plupart, soient choqués par le chiffre. Par les 55 millions d'euros. Mais pas tant par le fait que Mbappé réclame
ça. Ça, c'est un autre débat, Pascal.
Tu comprends? Non, mais parce que c'est
mais je l'entends. Moi, le chiffre me choque aussi en soi, évidemment.
De clouer au pilori le type parce que sous prétexte qu'il gagne un maximum de blé. Donc, non, il a signé un contrat, il a du talent, et ce talent, il le monnaie,
On est complètement d'accord, sauf que pour sortir du loft, il a parlé à son président. Et il a parlé à son président, et c'est là que ça me dérange un petit peu, encore une fois,
à part Arthur le Magnifique qui vit dans le bureau de Nasser, personne n'y était. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit.
Absolument.
Et si l'accord
nous a raconté,
attends. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis ça, mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, on renie une partie des primes. Mais est-ce qu'ils se sont dit, et tu vas voir, en mois de mai-juin, quand tu vas approcher du départ avril-mai-juin, on parle de ça, Arthur, on ne paiera plus non plus. Parce que moi la partie de prime qui est négociée, qui dit, OK, je vais oublier mes primes de départ, machin, bidule, on oublie ça, mais par contre, on fait une belle saison tous ensemble. Et si à la fin, même les salaires sont pas versés, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a trop, c'est trop, vous allez pas me la faire à l'envers.
Ça, évidemment que ça ne s'est pas dit. La chose dont on parle peut-être aussi là, c'est tout simplement un accord de confiance. Alors que oui, ce ne soit pas matérialisé à l'écrit, juridiquement, c'est très bancal. Incroyable. C'est très bancal, d'accord. Mais, par exemple, Pascal, ça existe. Nous, journalistes, on en entend parler des histoires d'accords comme ça, à l'amiable, verbal, entre un joueur et son président, en disant, bon, voilà, on a eu des différends, mais cette saison, j'ai discuté avec le coach, tu vas avoir un peu plus de temps de jeu. On va pouvoir t'augmenter un peu en milieu de saison cet hiver. Par exemple, s'il y a des départs, ça existe. Et puis en plus, donc, on parle uniquement de confiance.
Le PSG a quand même tout fait pour qu'ils se sentent bien jusqu'à cet épisode-là, mais pour qu'ils se sentent bien au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ils se sont dit peut-être que c'est donnant-donnant. Voilà.
Oui, mais je vois, et très franchement, si on veut bien, j'en appelle à votre mémoire. Mbappé se sentait pas bien au Paris Saint-Germain, ils lui ont filé les clés. Ah. Le pognon et les clés, c'est lui qui faisait l'équipe.
Justement.
Il a dit, tu peux pas dire que Mbappé se sentait pas mal quand même.
Bah donc, justement, tu peux te dire, pour service rendu, il peut aussi faire cette fleur à son club.
À partir du moment où ils l'ont placé dans l'offre,
il l'a dit dans la presse, François.
C'est la fleur et le fleuriste.
François, surtout qu'il l'a dit dans la presse qu'il ne partirait pas comme ça, qu'il laisserait pas ce club qu'il a tant aimé, comme ça, libre de droit, sans rien. C'est un peu différent comme posture, Pascal. Il l'a annoncé dans la presse. Alors oui, on
était pas dit ce que tu veux dire sur.
Je suis d'accord.
Dis ce que tu veux dire sur Kylian Mbappé.
Bah, il l'a dit.
Il l'a annoncé. Et puis alors, dans la presse, ça a toujours dit la vérité.
Alors non. Quand on retranscrit des propos, j'espère que oui.
Voilà.
Sinon, tu peux attaquer pour
les masques tombent. Les masques tombent, Monsieur Dupraz. Les masques tombent.
Le bisounours de 2 mètres.
Non, mais je suis très surpris, Pascal. Tu connais attaquer en diffamation.
On va demander.
Attaquer en diffamation.
Oui, bien sûr.
Que les propos de Mbappé avaient été faux. Il suffisait, il a une avocate apparemment de grande qualité, et il suffisait qu'elle réagisse et qu'elle demande un préjudice par rapport à ça.
Alors, je voudrais demander l'avis à Malcolm qui nous rejoint au 32-16 sur RMC dans les grandes gueules du sport. Bonjour Malcolm.
Bonjour, comment allez-vous tous?
Pas bien, t'as vu, on est en pleine forme ce matin pour les grandes gueules du sport. Vas-y, on t'écoute.
Alors, juste en introduction, juste pour dire à Pascal, on n'a pas existé en LDC, on a fini en demi.
Comment?
En Ligue des Champions l'année dernière.
Oui, vous savez. Vous avez
dit qu'on n'a pas existé. Tu avais dit qu'on n'a pas existé.
Ils sont allés jusqu'en demi-finale.
Mais ce que je veux dire, c'est que je suis supporter du Paris Saint-Germain comme tous les clubs français. J'attends qu'il y ait un club gagne la Champions League. Okay. Ne parle pas de demi-finale.
Pour te corriger sur ça.
Voilà.
Maintenant, pour revenir à un truc, je suis d'accord avec. J'ai oublié son prénom. Alfred.
Oui, c'est
Fred. Je suis d'accord avec Fred.
Bisounours. Appelez Nounours.
On a vu sa taille, je vais appeler grand nounours. Justement, je suis d'accord avec lui dans le sens où, on va dire, c'est pas choquant qu'il fasse sa demande. Il est vrai par rapport au salaire des mois et compagnie. Après, pas classe, mais en même temps, un supporter parisien, nous, ça fait un moment qu'on n'est plus sous l'illusion Mbappé. Donc, l'histoire d'amour pour moi, comme on dit, l'expression, c'est il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
Oui.
Et les preuves d'amour entre le PSG et Mbappé, c'était que des preuves pécuniaires. Donc, il faut lui donner son argent. Nous, de toute façon, nous, ça fait un moment qu'on s'est fait des illusions sur Kylian Mbappé. Il est parti, qu'il fasse sa vie à Madrid, qu'il récupère son argent et qu'on arrête de nous suriner avec cette histoire, quoi.
C'est une triste fin d'histoire.
Ouais, non, mais c'est triste, mais au moins, on ouvre les yeux pour le coup. Ça fait, en plus, historiquement, Mbappé, ça s'est toujours fini là avec ses clubs. Ça s'est toujours fini mal. C'est que avec Monaco, ça s'est mal fini. Avec Paris, ça se finit mal. En équipe de France, c'est pas un club, mais ça, l'Euro, voilà. Moi, je suis désolé au final. Maintenant qu'il passe sa vie à Madrid, je souhaite que du bien. Je souhaite que du bien. Je ne fais pas ces mauvais débuts à Madrid, mais au moins qu'on soit débarrassé, quoi. Parce que qu'on soit tranquille.
La fin du feuilleton, clé de tes vœux, Malcolm. Bah écoute, ce sera peut-être la dernière fois qu'on parlera Mbappé PSG. C'est pas sûr, c'est pas gagné.
C'est pas sûr, François. Tu nous trouveras un sujet. C'est sûr.
Mais oui, évidemment. Mais là, on va parler de Mbappé à Madrid. On va remercier Malcolm d'être passé en tout cas. Merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux, parce qu'on va aller à Madrid retrouver Edgar Grollo. Salut Edgar.
Salut François, salut GG, salut à toutes et tous.
Il est de plus en plus bilingue en espagnol, correspondant RMC désormais à Madrid.
Qu'est-ce
faut pas non bientôt plus trop le tester, bientôt. Attention. Hein. Tu vas suivre ce match, 17h, Real Madrid-Valladolid. Premier match de Mbappé à Santiago Bernabéu avec évidemment la tunique madrilène. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours, Edgar, de l'effervescence? Parce qu'on a vu les premiers pas mitigés en Liga, ça a peut-être calmé un peu tout le monde.
Non, ses débuts en Liga n'ont calmé absolument personne. Hein, je te rassure, François, l'attente autour de ce match est immense ici, évidemment. Déjà dans les médias, Marca et As lui souhaitent tous les deux la bienvenue dans sa nouvelle maison. Et il ne manque pas de rappeler, comme tu l'as dit, que Kylian Mbappé a déjà marqué à deux reprises ici avec le Paris Saint-Germain et que tout le monde a hâte maintenant de le voir marquer avec ce maillot blanc du Real Madrid sur le dos. Le stade sera plein, évidemment, ce soir. 85 000 personnes, des supporters qui en attendent beaucoup, beaucoup de Kylian Mbappé. Écoutez.
J'espère qu'il aura des débuts au niveau de sa grandeur et de sa qualité comme footballeur. Les attentes autour de lui sont très grandes. Il est comparé à des joueurs comme Ronaldo ou Messi. C'est le jour 1 de l'histoire de Mbappé au Bernabéu.
J'ai du mal à imaginer. Ça va être un grand match. Il va mettre un triplé, forcément, au moins 3 buts, non ? Ça fait 7 ans qu'on l'attend.
Une attente qui va donc toucher à sa fin à 17h face à Valladolid. Et certains ici à Madrid y voient un clin d'œil du destin puisque le président et propriétaire du club n'est autre que le Brésilien Ronaldo, R9 évidemment, numéro 9 mythique du Real Madrid. Et lui, il avait marqué un doublé pour sa première. Ce serait quand même pas mal un doublé pour Kylian Mbappé.
Oui, ça serait bien. Sans Bellingham, hein. Ça c'est quand même important. Il s'est blessé à l'entraînement cette semaine.
Oui, c'est ça. Il n'a pas terminé l'entraînement vendredi. Touché au muscle plantaire de la jambe droite. Son retour est espéré d'ici un mois. Donc ça fait à peu près fin septembre. Forcément ça change beaucoup de choses pour le Real Madrid quand on connaît son importance dans le jeu. C'est Luka Modric qui devrait prendre sa place dans le 11 de départ aujourd'hui. Autre changement forcé pour Carlo Ancelotti au poste de latéral gauche. Le français Ferland Mendy est suspendu et devrait être remplacé par Fran Garcia. Pour le reste c'est du classico classique et on aura le droit évidemment au trio d'attaque Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo.
Et ben on va suivre ce match, Real Madrid Valladolid. Merci beaucoup Edgar et à très bientôt.
Merci à vous.
Sur RMC, effectivement, voilà, on aura peut-être plus de débats avec la fin du feuilleton Mbappé au PSG, mais des débats Mbappé à Madrid, je pense qu'on en aura les GG. Hein. Je pense que là, on a de quoi faire.
On espère, sinon on s'ennuierait sur Mbappé.
Non, mais on va surtout parler du grand Kylian Mbappé qu'il est, qu'il a toujours été. Et j'aimerais qu'on en parle en bien, moi, parce que je trouve qu'on est très dur avec Kylian Mbappé, que certains supporters parisiens notamment ont la mémoire très courte quand même.
Ouais, mais c'est du dépit amoureux.
Ouais, c'est ça, c'est de la déception amoureuse.
Sans doute, oui.
On lit un peu partout de ce là, du mauvais début, etc., etc. Il y a une grosse pression sur ses épaules. Et t'as vu la déclaration du supporter espagnol. Ça fait 7 ans qu'on l'attend. Il y a un peu d'ironie aussi dans les déclarations. Il faut qu'il soit à la hauteur de tout ça. Et on l'espère. En tout cas, ce qu'on peut espérer si on est supporter de l'équipe de France aussi, c'est qu'il retrouve sa brillance et son niveau, parce que du grand Mbappé au Real, ça fera du grand Mbappé en équipe de France et on en a besoin.
Ça c'est sûr. Quand on est supporter des Bleus, on est d'accord. Merci beaucoup Arthur.
Salut messieurs.
À très bientôt.
Bonne journée.
Tu peux retourner Arthur. Donc dans le bureau de Nasser.
Oui, j'ai bien compris.
Jérôme Pilot, hein. Et tu passes le bonjour à Nasser de notre part.
Promis Jérôme. Voilà.
Il est toujours bonjour très bien informé, Arthur. Voilà. Et on embrasse tous les bisounours qui nous écoutent et il y en a sans doute. Ouais. On va accueillir Gaëtan tout de suite dans les grandes gueules du sport. Salut Gaëtan.
Bonjour.
Bravo à toi, tu as remporté ce matin l'enceinte prodige de la marque française Absolument. Bravo, tu vas pouvoir écouter les grandes gueules du sport n'importe où. En plus, elle est très jolie. Hein. Je sais pas si tu l'as vue, mais tu vas la voir, elle est magnifique.
Non, j'ai pas eu l'occasion de la voir encore, mais apparemment, ouais, vraiment sympa.
Voilà. Faut pas mettre le son trop fort, fais attention avec cette enceinte.
Merci
parce que pendant les GG, quand il y a Pascal Duprat, Jérôme Pino et Fred Veil, ça peut casser les oreilles.
Oui, je ne mettrai pas le son trop fort, effectivement.
Bon, j'espère que tu nous écouteras en tout cas avec cette enceinte prodige. Merci beaucoup Gaëtan. Et
merci à vous.
À très bientôt GG. Sur RMC, tu reviens quand tu veux. Merci, bonne journée à toi. Dans un instant.
Les grandes gueules du sport sur RMC avec l'enceinte prodige de la marque française Absolument. Éco-responsable, durable et haute fidélité, c'est l'enceinte de toute une vie. Rendez-vous sur a-absolument.fr.
Allez, on revient tout de suite dans les grandes gueules du sport avec Mickaël Jérémiaz, invité des grandes gueules à 3 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. L'ancien porte-drapeau sera avec nous en direct dans quelques instants. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, 32-16 si vous voulez venir lui poser vos questions. C'est tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h31, encore 30 minutes à passer ensemble avec les grandes gueules du sport ce matin, avant les paris RMC. Les grandes gueules du sport ce matin, Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Fred Weiss et un bisounours. Ils sont en pleine forme en tout cas. Dans 15 minutes, les grandes gueules contre-attaquent. Elles vous ont proposé un débat, vous le savez, c'est vous qui choisissez. Vous avez encore 15 minutes pour faire votre choix sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, dans le groupe Eto, Jérôme Pinault, bah, c'est pire en pire, 20% pour son débat sur la Vuelta, 28% pour le débat proposé par Fred Weiss sur Yabusele de retour en NBA, et c'est Pascal Duprat qui écrase pour l'instant tout le monde, 52% pour le débat autour de la Ligue 2, des incidents qu'il y a eu hier. C'est marrant parce que je le dis quand même, à chaque fois qu'on met un programme en ligne, les GG, on nous dit ah, vous parlez encore de foot, mais dès qu'on vous propose des débats hors foot, vous choisissez le débat foot. Voilà,
c'est ça.
Voilà, je préfère préciser quand même, voilà, mais bon, c'est habituel, enfin, c'est comme ça, je crois que c'est la règle. Allez, à 3 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, on va accueillir Mickaël Jérémias, ancien porte-drapeau à Rio, champion paralympique de tennis fauteuil en double, c'était à Pékin. Bonjour Mickaël, merci d'être avec nous.
Bonjour, avec plaisir.
Bonjour Mickaël.
Tu es aussi chef de mission pour l'organisation de ces Jeux Paralympiques, une sorte de porte-parole aussi, on peut le dire, pour tous ces athlètes français. La cérémonie, c'est dans 3 jours. Tony Estanguet a promis une cérémonie grandiose sur les Champs-Élysées. Il y a Alexis Anquincan qui était avec nous d'ailleurs en direct hier, qui va être porte-drapeau. Tu as un petit conseil d'ailleurs à donner à Alexis, s'il nous écoute là, toi qui as déjà été porte-drapeau.
Bah, c'est de profiter, hein. Tu sais, quand t'es porte-drapeau, que tu emmènes l'équipe de France pendant la cérémonie d'ouverture, c'est un moment assez magique. Moi, je pense que c'est un des plus grands souvenirs de ma carrière, même avec des médailles ou des titres de tu vois, numéro mondial ou choses comme ça. C'est quelque chose d'assez magique. Et après, faut pas non plus se perdre parce que 3 jours plus tard, quoi, 5 jours plus tard, il doit nous ramener une médaille d'or, Alexis, comme il avait fait à Tokyo. Donc voilà, c'est un peu un jeu d'équilibriste. C'est entre ceux qui veulent profiter, entre la moitié de nos athlètes qui n'ont jamais participé au jeu. C'est la première fois qu'on a autant de primo sélectionnés, donc c'est de profiter de ce que les jeux t'offrent, tout en ne pas oubliant que vous avez passé des années à faire beaucoup de sacrifices pour vous sélectionner au jeu et pour essayer d'aller chercher une médaille. Donc voilà, c'est de toute façon, c'est un événement assez unique. Hein.
Et unique encore plus à Paris, après ces Jeux Olympiques qui ont vraiment été très très suivis, il y a eu un véritable engouement. Est-ce que tu penses que les Jeux Paralympiques peuvent justement et doivent surfer sur cette vague des JO ?
En tout cas, pour moi, c'est sans commune mesure avec ce que j'ai connu. Moi, je commençais en 2004, on avait 15 minutes de retransmission en différé entre minuit et minuit 15. Ouais. Des performances des athlètes. Aujourd'hui, on va avoir sur le service public plus de 300 heures en direct. Toutes les radios, presse, écrite, tout le monde se mobilise, tout le monde a envie, en tout cas. Et je pense que tout le monde a enfin compris que vous allez simplement assister à des putains de performances sportives réalisées par des grands champions, des grandes championnes. Je pense qu'on est en train de mettre derrière nous le côté un peu misérabiliste. Ah, ils sont super courageux. Ah, je suis admiratif. Non, c'est-à-dire que ça, il faut vraiment qu'on en sorte complètement et qu'on apprécie à sa juste valeur ce que ces athlètes vont produire. Dans le bien comme dans le moins bien. Moi, j'attends et je sais que vous serez peut-être les premiers à le faire. Je vous défie. Alors, c'est pas un mauvais challenge, hein, mais 6 fois, faut le dire aussi.
Ah oui, bien sûr.
S'il y a une contre-performance, faut le dire aussi. À date, j'ai jamais entendu de journaliste, sur du direct notamment, dire ah non là il est passé à côté, là c'est de la merde, comme vous pouvez être des fois un peu dur, mais en tout cas comme vous pouvez être critique, et la critique elle va dans les deux sens. On demande un traitement égal, et si on arrive à faire ça, là on a gagné notre pari.
Eh ben écoute, on va essayer de relever ce défi sur RMC. On a une radio digitale aussi pour suivre toutes les performances des athlètes. On va parler des performances et des contre-performances aussi, défi relevé. Mickaël Jérémias avec nous en direct sur RMC. Jérôme, tu avais une question peut-être pour Mickaël?
J'ai une question, elle est simple. C'est quoi les ambitions? On a parlé d'objectifs médailles pour les Jeux Olympiques. Quels sont, selon toi, les objectifs atteignables pour l'équipe de France paralympique pour ces Jeux à la maison? Est-ce qu'on a rehaussé aussi les ambitions comme on l'avait fait pour les JO? Est-ce qu'on est très confiant? Est-ce qu'on peut s'attendre à un festival de médailles pour les Français?
Bah, d'arrêt aussi, à titre d'exemple, à Tokyo, on était 14e, on avait eu 11 médailles d'or, et là, l'objectif, c'est 20 médailles d'or, quasiment le double. Donc, effectivement, c'est très ambitieux, et donc, de réintégrer le top 8. Et donc, l'effet JO et JOP à la maison, il existe, parce que depuis plusieurs années, il n'y a jamais autant d'argent investi dans le sport de haut niveau. Donc, on sait que c'est le nerf de la guerre. Pour avoir les moyens de ses ambitions, il faut pouvoir y consacrer toute son énergie et tout son temps. Donc ça veut dire potentiellement ne pas avoir à travailler la journée pour pouvoir se consacrer à son activité sportive à plein temps. Donc ça, ça aide évidemment la performance. Et puis l'engouement populaire, vous en parliez, vous aurez des millions de personnes derrière ces athlètes. Donc tout ça joue. Donc oui, on espère évidemment avoir un record de médailles sur ces jeux, sur ces Jeux paralympiques à la maison.
Fred Weiss, tu as une question à poser à Mickaël Jérémias, notre invité dans les grandes gueules.
Bonjour Mickaël, moi j'avais envie de continuer sur les objectifs, mais les objectifs de billets vendus, on sait que le Graal, ça serait Londres à 2,7 millions de billets vendus. De ce que j'ai lu, on est un peu plus de 1,5 million. Qu'est-ce que vous visez exactement et à combien vous serez content, satisfait? Parce qu'encore une fois, c'est important en termes d'image, de vendre des billets, de montrer l'engouement que ça peut susciter.
Pour moi, il y a deux enjeux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'image, de montrer au monde qu'on est capable de s'intéresser de la même manière à des athlètes olympiques ou paralympiques, qu'on ne définit pas la performance d'un athlète sous prétexte qu'il est capable de mettre un pied devant l'autre ou d'avoir la même audition ou la même vue qu'un autre. Et ça, ça dit quelque chose de notre société. Donc moi, ce serait une déception que nous, Français, on n'ait pas compris en fait la chance qu'on avait d'avoir ce que nous, on a appelé le match retour, à savoir ce que le sport peut nous procurer. Vous le savez aussi bien que moi, il n'y a que le sport qui peut nous permettre de vivre des émotions pareilles et de souder une population et une nation telle que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc on a cette opportunité-là. Donc pour moi, il y a cet enjeu d'abord premier. Puis le deuxième, il n'y a rien de plus frustrant quand vous êtes un sportif de niveau d'évoluer dans un stade qui n'est pas rempli, alors que vous savez ce que vous allez offrir à ce public-là. Et tous ceux qui n'ont pas pu parce que ça coûtait plus cher ou parce qu'ils avaient décidé de partir en vacances ou loin de Paris parce qu'ils avaient peur que l'ambiance ou le trafic ou tout ça soit compliqué, la réalité, c'est que rien de tout ça n'est arrivé et qu'en plus, les billets sont à partir de 15 euros. Donc vous avez l'occasion, en revenant de vacances, de vous prendre une putain de claque, de passer, notamment le week-end prochain, du jeudi à dimanche, pour les premières épreuves, en famille, avant de retourner à l'école, de vivre quelque chose d'assez magique. Vous êtes curieux, vous aimez le sport, vous avez découvert des choses que vous ne connaissez pas, des sports pratiqués de manière différente, des sports aussi nouveaux, le goalball, la boccia notamment. Et ensuite, pendant la semaine, l'excuse de oui, c'est la rentrée. Oui, mais la rentrée fait qu'il y a quasiment 1,5 million d'enfants qui ne seraient pas allés aux Jeux, qui vont venir aux Jeux paralympiques. Donc oui, si on atteint les 2,7 millions symboliquement, c'est très bien. Évidemment, mais moi je souhaiterais juste qu'on remplisse les jauges qui ont été proposées. Si on a un stade de 8000 personnes, je voudrais qu'il y ait 8000 personnes qui soient là. Nous, on n'a pas de stade de foot à remplir. Le Cécile Foot, il sera au pied de la Tour Eiffel. L'endroit, il est oufissime. Vous pouvez demander à Didier Deschamps et tous les joueurs d'équipe de France qui ont tous essayé un jour le Cécile Foot, ils sont incapables de se faire une seule passe. Mmh. Ces mecs-là, ils traversent tout le terrain. Ils vous marquent un but face à un goal qui lui voit.
C'est impressionnant.
Heureusement, c'est un sport de fou. Ouais. Et je peux vous faire l'exemple sur les 22 sports que vous allez voir au jeu. C'est extraordinaire. Et je dis pas ça parce que moi, j'ai le cul dans un fauteuil et que j'étais athlète. Moi, je suis un amateur de sport. Non, mais moi, je suis un amateur de sport. Donc moi, ce que j'aime dans le sport, c'est le geste, c'est l'émotion, c'est la dramaturgie, c'est un record du monde, un record olympique, paralympique, c'est une défaite, c'est des pleurs, c'est des bras, c'est des larmes, c'est ça. Ouais. Ça, vous l'avez au moins autant dans le sport paralympique.
Exactement. Pascal Duprat, avec Mickaël.
Je suis pratiquement certain de ta réponse, mais allez, si tu devais sélectionner un sport que tu me conseilles d'aller voir pendant ces Jeux paralympiques, donne-moi ça.
Je ne dirais pas d'aller voir le tennis.
Le tennis,
le fauteuil.
Le tennis,
non, mais dis-moi, allez.
Je te dirais.
Fais-moi rêver déjà. Donne-moi envie d'y aller complètement.
Pour moi, le cécifoot. Le cécifoot. D'accord. Imagine. Connaissez bien le foot, messieurs, le cécifoot. Tu ne vois pas. Tu te repères au bruit du ballon. Parce qu'il y a des petits gros lots dedans. Tu as un goal qui lui est valide, donc lui voit, donc lui sait exactement comment tu te déplaces. Et toi, tu dois te repérer dans l'espace. Ouais. Tu dois dribbler quatre adversaires et tu dois les marquer de l'autre côté. Les mecs, on croit, je te jure, quand tu regardes, t'as l'impression que c'est des mythos et qu'ils voient en fait. Tellement c'est impressionnant.
Et donc, en plus, ils sont super bons techniquement.
Non mais techniquement,
pour
c'est
pour les avoir vus, ils sont techniquement
le contrôle de balle est fou. Donc je te conseille le cécifoot. Je te conseillerais d'aller voir un sport en fauteuil, le basket fauteuil ou le rugby fauteuil. Basket, d'accord, fauteuil, sport de contact, mais surtout sport ultra technique. Les mecs, le panier est à 3,05 m. Les nanas et les gars, ils te font des 3 points à 3,05 m, assis dans leur fauteuil. Ils vont se rentrer dedans. Et le rugby fauteuil, c'est un sport de barjo. Faut y aller, faut les voir. En plus, on a une équipe championne d'Europe, emmenée par Jonathan Hiverna, avec Saïk Nankin, Riyad Salem, toute la troupe. Allez les voir, c'est des oufs. Et ils vont vous proposer un spectacle de dingue. Et après, bah, l'athlée, la natation reste deux sports, comme aux Olympiques. Vous pouvez passer votre journée à découvrir des sports. Et là, les catégories de handicap, imaginez comment vous êtes capable de nager quand vous n'avez pas de bras, quand il vous manque une jambe, quand il vous manque deux jambes et deux bras. Eh ouais, moi, la première fois, j'étais comme Artus, je me disais, c'est quoi ce truc-là, là? Comment il va faire? Et là, vous dites, putain, mais cette ondulation, la manière dont il est capable de se mouvoir, la vitesse à laquelle il va, je me dis, mais c'est pas possible. Et cette capacité qu'a l'être humain à exploiter la moindre capacité qu'il a pour produire un effort et donc une performance, rien que ça, c'est juste, vous allez ramasser votre mâchoire pour la fermer juste pour dire, wow, putain, les cons, qu'est-ce qu'ils nous ont montré là? C'est ça! Profitez, en fait, c'est un cadeau. Vous avez 15 jours de supplémentaires faut y aller.
Voilà, ça donne envie en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent, c'est sûr, Michael.
Oui. Tu m'as mis les poils, Michael. Ouais. Il faut qu'on y aille.
Et d'ailleurs, la façon dont on doit parler de ces athlètes, on en a parlé dans les grandes gueules du sport, donc je te pose la question, Michael, mais c'est vrai qu'on a eu cette sortie de Sofiane Meyaoui de l'équipe de France de basket fauteuil qui répondait à Teddy Riner. Teddy Riner qui avait parlé de super-héros. Est-ce qu'il faut justement, toi aussi, tu es d'accord avec Sofiane, arrêter d'employer ce genre de terme, de mettre peut-être l'accent trop sur le handicap et parler quasiment uniquement de la performance?
Je vais vous dire, quand vous avez Teddy Riner et Marie-Jo Pérec à une semaine des Jeux Paralympiques qui parlent de nous en disant qu'il faut y aller, qu'on est super, parce qu'ils ne disent pas, parce qu'on leur a demandé de le dire. Teddy, c'est un pote, Marie-Jo, c'est une copine, on se connaît depuis très longtemps, on évolue ensemble, ils connaissent les parasports. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils sont derrière nous, ils nous soutiennent, ils nous encouragent. Après, sur la sémantique, Sofiane, il a raison. Moi, j'ai produit et j'ai été la voix off d'un documentaire pour Canal qui s'appelle We Are People, que je vous conseille de regarder, qui raconte comment le sport a changé la place des personnes handicapées dans la société depuis l'Antiquité. Et en fait, vous allez comprendre que comment le sport nous a aidé à avoir plus de droits. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on attend, c'est que vous compreniez que nous sommes comme les autres. C'est-à-dire que on ne veut pas d'approche misérabiliste. Ça, c'est une certitude. Oh, quel courage. Oh, le pauvre, après ce qui lui est arrivé, oh, bah, c'est déjà très bien ce qu'il a fait. On ne veut pas de ça. Mais on ne veut pas, à l'inverse, que vous nous considériez comme des super-héros. Quand Teddy Riner, il a son énième médaille d'or, on dit que c'est une légende, on dit que c'est un putain de champion, on ne dit pas que c'est un super-héros. Un super-héros, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément toujours humain, il est mi-humain, mi-quelque chose, c'est quelqu'un qui a un peu un dark side, ils ont souvent un pet au casque, les super-héros, un truc qui n'est pas terrible dans l'enfance. Nous, en fait, on est pareil. Non mais, les gars, moi quand j'ai une médaille d'or, je suis un champion, c'est génial. Le lendemain matin, quand je me réveille, que j'ai un peu mal au dos parce que ça fait 20 ans que je suis dans fauteuil roulant et que je dois mettre dans mon fauteuil, et que je dois aller me transférer dans ma douche. Je suis pas un super-héros, je suis comme tout le monde, avec mes contraintes. Donc effectivement, la sémantique, c'est un traitement égal. On est comme les autres. On est bon, bravo, et on va nous aduler, on va jeter dans la foule au Club France tous les soirs à l'Halle de la Villette, et on vous attend nombreux. On est mauvais, parce qu'on est passé à côté, et ben il faut le dire aussi. Soyez sympa, on n'est pas obligé de nous insulter, mais faites des choses. Mais c'est aussi simple que ça.
Bien sûr.
Mais par contre, Teddy, Marie-Jo et tous ces champions olympiques et ces légendes-là, moi je les attends et je l'ai dit, je l'ai encore dit récemment, je vous attends tous autant que vous êtes, qui étaient présents à la semaine depuis les Jeux Olympiques, les Zinedine Zidane, tous ceux qui étaient là, qui ont porté les Jeux Olympiques, on vous attend. Si on est une équipe de France unie telle qu'on l'a décrété avec le Paris 2024 depuis l'après 2016, quand Teddy et moi on s'est passé le drapeau, eh ben on le fait jusqu'au bout. L'aventure, elle est jusqu'au 8 septembre après la semaine clôture.
Après, c'est vous. Et après, justement, l'après Jeux paralympiques, ça peut être important, Michael. Il y avait eu quand même à Londres, il y a eu du changement, notamment pour les personnes handicapées dans la société, pour avoir des emplois, pour leur faciliter la vie au quotidien.
En France, et l'accessibilité.
Voilà, Michael, en France, on est d'accord qu'il y a quand même du retard par rapport à ça. Ces Jeux paralympiques, ils doivent servir aussi à ça.
C'est pas aussi, ils doivent servir essentiellement à ça. Ouais. Quand moi je m'engage auprès de Tony Estanguet il y a 9 ans, ça fait 9 ans déjà moi que je travaille avec eux, c'est parce que pour moi il y a un enjeu d'héritage. J'ai participé à des Jeux, tu parlais de Londres, après Londres, 1 million d'emplois pourvus pour des personnes handicapées dans les 6 ans qu'on suit les Jeux paralympiques. Ça voudrait dire chez nous le plein emploi pour les personnes handicapées. Alors qu'aujourd'hui t'as un taux de chômage 2 fois plus important pour les personnes handicapées. Vous parliez d'accessibilité. Il y a eu une accélération dans la transformation de l'accessibilité de Paris, de la région Île-de-France et de la France de manière générale parce que des moyens financiers ont jamais été autant injectés. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Évidemment, le 9 septembre, on reprend notre vie normale. Ça reste Paris, l'Île-de-France, et la France reste un pays qui est encore beaucoup trop inaccessible à des personnes à mobilité réduite, pas à tous les handicaps. Quelqu'un qui est sourd, il peut prendre le métro. Nous, on ne prend pas le métro. Nous, aujourd'hui, pendant les Jeux Olympiques, j'ai trop souvent dû prendre un taxi.
Ah oui,
parce que moi, j'ai les moyens de me payer un taxi.
Ouais, bien sûr.
Mais moi, je vis à Londres depuis 6 ans. Ma femme est anglaise, donc après 9 ans à Paris, on s'est installé à Londres. Il y a des tarifs qui sont proposés à 4 ou 5 livres pour des courses pour des personnes en fauteuil roulant en disant on n'est pas capable de donner exactement les mêmes droits aux personnes handicapées, donc on va adapter. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a des solutions de mobilité douce qui peuvent être créées. Aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que les Jeux ont été un accélérateur dans la perception qu'on a de l'autre, dans notre envie en tout cas de composer ensemble. Maintenant, la transformation, elle va dépendre de l'État, des pouvoirs publics, du président, du Premier ministre, quand on en aura un, du gouvernement qui va arriver, de quelle manière rebondit dessus, l'investissement dans le sport. mais pas pour faire des champions, pour qu'on pratique du sport ensemble depuis le plus jeune âge, pour qu'on crée du lien social, pour qu'on évite d'avoir des personnes handicapées qui ont la double peine, qui développent des maladies cardiovasculaires parce qu'ils sont plus sédentaires que les autres, et puis ensuite, que la question de l'accessibilité devienne un réflexe. Je construis quelque chose, je transforme quelque chose, je répare quelque chose, est-ce qu'il a été pensé pour tous ? Le fait de se dire, quand je fais quelque chose, est-ce que, quand je fais je donne à bouffer à quelqu'un, quand je le divertis, est-ce que j'ai pensé à tout le monde ? Ouais. Et ça, pour moi, je sais que c'est quelque chose qui va fonctionner. Par contre, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai eu mon accident. Quand t'es handicapé, faut être patient dans le monde dans lequel on vit. Donc, je sais très bien que 9 septembre sera pas changé. Et puis, je terminerai là-dessus. Je suis désolé, je suis bavard, messieurs, mais, non, mais... c'est vous, médias, qui avez, c'est vous, médias, qui avez une responsabilité ultra importante. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, à partir du 9 septembre? Est-ce que vous allez continuer, RMC, Radio Digitale sur les Jeux Paralympiques, est-ce que vous allez traiter encore des événements de parasport? On en a toutes les semaines. On a des championnats d'Europe, du monde, des compétitions, on a les tournois du Grand Chelem en tennis, on a tout. Est-ce que vous allez en parler? Est-ce que France Télévisions va continuer à en parler? Est-ce que l'équipe, Canal, est-ce que tous ces médias sportifs vont s'en emparer, comme le fait la BBC et Channel 4 notamment, où toutes les semaines, tous les jours, je vois des personnes handicapées dans des talk shows, dans des compétitions en direct. Et c'est ça, en fait. Faut qu'on devienne une minorité visible. On est invisible. À vous de nous rendre visibles.
Et tu es un excellent porte-parole aussi. Il faut des porte-paroles, il faut des figures fortes aussi. Et on va en voir lors de ces Jeux paralympiques. On avait Alexis Anquincan qui parle aussi très très bien de tout ça et qui était excellent hier et qui sera porte-drapeau et porte-parole aussi lors de ces Jeux paralympiques. Merci beaucoup. Hein. Merci mille fois, Mickaël.
Merci à vous,
d'être passé.
Merci,
les Jeux paralympiques, on le sait, ça sera sur RMC. Tu l'as dit, Mickaël, radio officielle de ces Jeux paralympiques. Il y aura donc sur l'antenne d'RMC, bien sûr, les Jeux paralympiques et une radio digitale mise en place exceptionnellement dès mercredi prochain à retrouver sur l'appli RMC. Merci encore, Mickaël. Oh, c'est la cloche. La fameuse cloche, c'est la rentrée. RMC, c'est le moment de vous inscrire dès maintenant là pour tenter de remporter la totale de cette rentrée. MacBook Air, iPhone 15, Apple Watch, PlayStation 5, tout ça, c'est à gagner si vous envoyez coffre dès maintenant au 7-32-16. Coffre au 7-32-16. Vous avez 5 minutes dès maintenant pour vous inscrire. Bonne chance à tous. Les grandes gueules qui continuent et qui contre-attaquent dans un instant sur RMC. Le résultat de ces débats et du vote, c'est dans quelques minutes. Restez avec nous.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h50, vous écoutez les grandes gueules du sport jusqu'à midi et c'est à retrouver en podcast, vous le savez, dès maintenant sur l'appli RMC. Jérôme Pinot, Fred Weiss, Pascal Duprat vous accompagne depuis 9h ce matin dans les grandes gueules du sport et c'est le moment, ils prennent les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Les GG qui vous ont fait 3 propositions de débat sur le compte X des grandes gueules du sport. Les votes sont clos officiellement avec 3e, dernier, lanterne rouge. Jérôme Pinot pour son débat sur la Vuelta, 22% seulement, mais t'as grappillé là quelques points.
Ah, j'ai gagné 2 places.
Ouais, voilà. Bon. Enfin, pas 2 places, non, deux petits points en pourcentage.
Deux points.
Fred, 27% pour ton débat sur Yabusele. Tu t'es bien battu, mais encore une fois battu par plus fort que toi, Pascal Duprat, le vainqueur. Vainqueur. Merci. Avec son débat sur la Ligue
cette
2.
Cette fois-ci, Fred, vous étiez 3. Nous étions 3.
Je rappelle juste ce qui s'est passé hier à Lorient. De car régie qui devait assurer la retransmission du match Lorient-Grenoble sur Beansport ont été dégradés. Il y a eu de la peinture répandue dans des camions, des câbles volés. Match ensuite interrompu pendant 27 minutes suite à des jets de fumigène, aussi des balles de tennis. Bref, des actes condamnés par la Ligue de foot professionnelle et Beansport. En fait, les supporters regrettent que Beansport diffuse le vendredi le multiplex Ligue 2 depuis cette saison. Pascal, on t'écoute.
Oui, oui. En fait, je vais poser une question avant de développer cette question. J'espère que mes deux collègues vont tenter d'y répondre. Moi, je crains, et je vous pose cette question, est-ce que vous ne croyez pas que Beansport va jeter l'éponge? Et moi, c'est ça ma crainte, parce que Beansport, c'est 40 millions.
Millions.
40 millions d'euros jusqu'en 2029 par année, c'est quand même un montant conséquent pour la Ligue 2 qui est magistralement retransmise par Beansport, ça il faut le dire. Les sujets sont intéressants, les retransmissions sont de qualité. Et voilà pas que hier au Moustoir, il y avait 10 798 spectateurs dont 50 voyous, abrutis, hébétés, des ânes. OK, qui pollue en permanence notre sport, le football. Donc il serait temps Je sais que ça a pas bien marché pour les droits télé apparemment, mais de grâce, le président de la Ligue professionnelle de football et tous les présidents de clubs qui sont responsables des déplacements de leurs supporters, de grâce, vous pouvez pas prendre le taureau par les cornes, s'il vous plaît. On peut pas évacuer ces fouteurs de merde des stades, les empêcher de nuire une bonne fois pour toutes, pour que le spectacle, eh bien, il soit total pour les 10 950 qui sont venus avec leurs gamins, leur épouse, assister à un spectacle et un match de foot. De cette manière-là, peut-être que les revendications des supporters seront entendues ou audibles, parce que la violence, ça mène jamais à rien. Donc, j'ai peur, même si Beansport est attaché, mais en tout cas pour les années à venir, j'ai peur que Beansport se décourage aussi.
Alors il y a une réunion d'ailleurs prévue normalement avec la ministre des Sports et justement les supporters, les associations de supporters et le diffuseur Beansport la semaine prochaine. Jérôme, Fred, qui veut réagir?
Oui. Non, moi je veux dire, concrètement, je pense que Beansport est attaché à la Ligue 2, et je pense que tu l'as dit, le traitement qu'ils en font est assez fantastique. Je trouve ça très bien ce qu'ils font, et je pense que la plupart des gens qui regardent le trouvent aussi très bien. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a un vrai risque pour le renouvellement, parce que si ça continue comme ça, à un moment, eux achètent des droits chers, ils les mettent en valeur, ils font ce qu'il faut de façon éditoriale pour que ça soit parfait, et qu'on leur crache dessus comme ça. Et ce que tu n'as pas cité, et ça je sais de source sûre, c'est que les commentateurs reçoivent des lasers dans les yeux aussi.
On a vu un laser vert d'ailleurs, qui visait les caméras.
Donc concrètement, je pense que Beansport est attaché à la Ligue 2, que Beansport, heureusement qu'ils sont là pour faire ces choses éditoriales, mais effectivement, il faut pas céder à 50 personnes dans les stades, il faut être beaucoup plus ferme, et il faut plutôt sanctionner ces gens-là pour éviter qu'un diffuseur historique comme Bein se désengage. Ouais,
après, on peut avoir aussi le débat, et là, je suis d'accord, on condamne tous ici ces actes-là, mais on peut aussi avoir le débat sur la meilleure programmation pour des matchs, pour permettre aux supporters d'aller dans les stades.
Bien sûr, mais ça, c'est le droit de tout le monde.
J'ai une question pour toi, François.
Oui,
concrètement, tu penses que quand tu mets 40 millions, tu tentes pas d'avoir la meilleure programmation pour tout le monde?
Non, tu tentes d'avoir la meilleure programmation pour toi, pour avoir la meilleure audience, pour avoir, bien sûr, et pas forcément pour les supporters.
Donc c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Donc on va essayer
évidemment,
de mettre en place des
évidemment.
Choses pour que on voit de plus en plus la Ligue 2, qu'elle soit
à la télé,
plus en plus
mais pas dans les stades, c'est ça qu'on
etc.
dit. Ouais, mais dans les stades, c'est plus compliqué pour les supporters de se déplacer
le
vendredi.
C'est ça qu'ils sont en train de dire. Vendredis.
Bah là ça revient en fait cette année, lorsque c'était Amazon, c'était le samedi, mais avant entre 2012 et 2020, c'était déjà le vendredi.
C'est ça toujours été vendredi, le vendredi.
Avant qu'Amazon voilà ait les droits. Jérôme.
Mais en plus c'est le débat, il est là et il est dans sa globalité, c'est-à-dire que on est quand même en plein marasme de diffusion. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une catastrophe, que la gestion a été mal entreprise et qu'aujourd'hui, regarder le football à la télé coûte très cher. On a un diffuseur qui est de très grande qualité, qui diffuse et qui produit et qui a une ligne éditoriale, comme le dit Fred, de très haute qualité, qui met les moyens pour bien diffuser un championnat qui, on va pas non plus se mentir, n'intéresse pas énormément les gens. Et en plus de ça, il y a du monde au stade et il y a 50 abrutis qui vont mettre des lasers, des balles, saccager l'outil de production qui va permettre à leur club d'être enrichi, de recruter, de faire un plus beau stade et pourquoi pas d'aller chercher la Ligue 1. Donc ces gens-là, mais n'ont rien compris. Ils n'ont rien à faire dans un stade. Mais ce sont les mêmes que l'on voit dans les manifs à péter des vitrines. Ce sont toujours une minorité d'imbéciles. Le débat.
J'ai l'impression qu'ils sont
large.
Tellement nombreux que personne les chasse aussi. Bon, à un moment donné,
le débat plus large, Pascal, et évidemment, et je te rejoins. Pourquoi rien n'est fait? J'aimerais connaître les raisons pour lesquelles on ne peut pas agir si on considère que ce sont des minorités.
Chacun se rejette la responsabilité entre les clubs
Est-ce que ça intéresse
et l'État?
Exactement. L'État, les clubs, les ligues, les fédés. Et après, on n'arrive pas à s'entendre et se mettre autour d'une table pour être d'accord.
Pour
évidemment,
finir et préciser quelque chose, il y avait des banderoles. Effectivement, le diffuseur Bein a demandé à ce qu'on retire ces banderoles à Lorient. Et le club, pour ne pas se mettre à dos ses supporters, n'a pas demandé à ses supporters de retirer des banderoles. Mais s'il ne s'agit que de banderoles, à la limite, c'est pas très grave. S'il n'y a que des banderoles, à la limite, là, on a dépassé les bornes. monde. Merci en tout cas à tous les trois. Merci beaucoup. Vous avez été parfaits. Pascal, Jérôme, merci. Fred, vous avez merci été exceptionnels.
Merci les bisous.
Merci aux merci bisous qui nous
merci
ont écoutés aussi.
Merci François.
Vous êtes
merci
parfaits,
François
les gars.
Et les bisounours.
Merci, c'était un plaisir de vous avoir ce dimanche. Les grandes gueules du sport qui reviennent samedi prochain dès 9h sur RMC. 9h, notez bien cet horaire pour cette saison. Tout de suite, les paris RMC avec la Dream Team et les meilleurs cotes sur la Ligue 1. On va notamment parler de Marseille-Reims ce soir. À tout de suite sur RMC, restez avec nous.